Donc nous avions la dernière fois rappelé les quelques grandes questions qui se posent du point de vue qu'est-ce que c'est que l'être, le TST de l'être, en quoi est l'être, d'où vient l'être, en vue de quoi. Alors il reste évidemment, mais je les traiterai après, mais non pas maintenant, je les traiterai après pour savoir si on peut se poser la question sur l'exemple de quoi. Est-ce qu'on peut parler de la causalité exemplaire au niveau de l'être? Est-ce qu'on peut parler du comment de l'être du point de vue métaphysique? Ça, nous y traiterons après. Nous allons entrer maintenant, si vous voulez, dans la question, puisque selon l'ordre des interrogations, il y a un certain ordre dans ces interrogations, c'est le TST, qu'est-ce que c'est? En quoi? Alors, j'ai dit pas de réponse, là, si. L'interrogation, en quoi? Ce qui est du point de vue de l'être n'a pas de signification. Ça, c'est très important. L'interrogation d'où vient l'être, d'où vient ce qui est du point de vue de l'être, n'a pas de signification. Vous avez là deux abîmes. Puis alors, en vue de quoi, ça a une signification. En vue de quoi, c'est-à-dire quelle est la perfection de l'être. Alors, si vous voulez, avant d'entrer dedans, étant donné que c'est une question particulièrement difficile, c'est même la question la plus difficile au point de vue métaphysique, donc pour aiguiser un peu votre intelligence, on va essayer de voir quelques aspects qui me semblent très importants à saisir au point de vue philosophique. Faire une petite topique historique, si vous voulez. Ou elle sera brève, hein. Ça pourrait aller assez vite, du reste, cette topique historique, si on est attentif. Qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit d'abord la position de Platon. Et elle est très intéressante. Parce que pour Platon, l'ousia, donc ce qui est aplos, ce qui est pris d'une façon aplos, ça se traduit simpliciter. Simpliciter, ça se traduit pris d'une façon absolue. Donc, ce qui est pris d'une façon absolue, l'ousia, est dépassé par le bien. Donc, le bien, c'est un surêtre. C'est un surêtre, comme on dirait aujourd'hui. C'est un au-delà de l'être. C'est intéressant. C'est un au-delà de l'être. Ainsi que l'un. Il y a deux au-delà de l'être. Le bien et l'un. Et donc, l'être, quand je me pose la question en vue de quoi l'être, quelle est la perfection de l'être, et que je pose le bien et l'un, je suis obligé de reconnaître que de fait, l'ousia, ce qui est, le bien et l'un, c'est au-delà. C'est quelque chose de plus. C'est quelque chose qui va plus loin. Et parce que c'est quelque chose qui va plus loin que ce qui est, vous voyez bien que la finalité de l'être est au-delà de l'être. Ben, c'est très important de comprendre ça. C'est très curieux, cette vision. Vous savez qu'on aurait exactement la même perspective aujourd'hui, d'une façon très différente. Quand je dis exactement, ça veut dire analogiquement, avec le père de finance. Le père de finance a édité sa métaphysique en disant qu'il y a un surêtre. Et le surêtre, pour lui, c'est l'action. Vous voyez que ce problème est toujours le même. On aurait la même position pour ceux qui disent Dieu sans l'être. Il y a donc un surêtre. Un au-delà de l'être, qui est l'action, donc le bien pour Platon, c'est Zeus. Hein. Le bien en soi, c'est Zeus. L'action chez le finance, c'est pas tout à fait Zeus, mais c'est quelque chose qui conduit vers. Vous voyez? Alors, pour le père de finance, le surêtre, l'action, c'est pour exprimer quelque chose que, de fait, dans l'action, il y a quelque chose qui est au-delà de la contemplation. C'est grave. Si je vais jusqu'au bout, forcément. Puisque l'être commande le point de vue de la contemplation, et là, il y a dans l'action quelque chose qui est au-delà de la contemplation. C'est très intéressant de voir ça. C'est la démangeaison habituelle. On voit très très bien. La démangeaison habituelle de l'action qui veut dépasser la contemplation. Alors l'action est du surêtre. Le contemplatif, il regarde l'être. Oui, c'est un statique. Tandis que celui qui est dans l'action, il atteint quelque chose de nouveau. Alors c'est intéressant de voir ça. Et quand vous dites que Dieu est au-delà de l'être, je me demande s'il n'y a pas la même chose. Ce n'est pas des contemplatifs qui disent ça. Ceux qui n'ont pas compris ce que c'était que la contemplation. Alors, ils disent qu'il faut supprimer. Il faut au moins se poser la question. C'est très intéressant. Je suis Platon, vous allez dire. Mais Platon est un contemplatif. Oui. Un contemplatif, hein, oui. D'une façon assez particulière. C'est vrai, la contemplation du bien. La contemplation du bien, pour Platon, c'est la contemplation. C'est le bien et l'autre qu'on contemple. Mais ce qui est très curieux, c'est que, de fait, en faisant ça, il nous montre qu'il y a dans la contemplation quelque chose qui est irrationnel, mais complètement irrationnel, puisque l'intelligible est au niveau de l'être. Le bien est irrationnel. Ce qui est très curieux, c'est quand vous mettez que le bien est irrationnel, donc au-delà de ce que vous pouvez comprendre, il y a la tentation de dire, au bout d'un certain temps, que l'action. Que l'action est toujours quelque chose d'irrationnel. Que l'action est au-delà de la contemplation. C'est en ce sens-là que je crois que dire que dans la contemplation, il y a quelque chose d'irrationnel, autre chose est dire que la contemplation est au-delà du rationnel que de dire irrationnel. La contemplation est ineffable. La contemplation s'exprime dans l'amour et dans le bien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est irrationnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est au-dessus de l'être. Non, pas du tout. Ça veut dire tout simplement qu'il y a dans la contemplation un amour qui nous met au-delà de tous les raisonnements, c'est bien évident. La contemplation n'est pas dans le raisonnement, mais elle n'est pas irrationnelle. Elle est au-dessus du rationnel. Il faut faire grande attention à l'irrationnel. Parce qu'il y a un irrationnel qui est au-delà du rationnel. Non, je suis tout à fait d'accord, la contemplation est au-delà du rationnel. Mais la contemplation n'est pas irrationnelle. Elle n'est pas contre la raison, elle est au-delà, elle va beaucoup plus loin. Et c'est la différence entre l'intelligibilité et le rationnel. La contemplation est suprêmement intelligible. Elle est suprêmement intelligible. L'amour garde l'intelligibilité, mais l'amour est au-delà du rationnel. Voyez, à fond, c'est cette petite distinction qui est très très importante, que de fait, Platon n'a pas saisi suffisamment. Que le père de finance, pour d'autres raisons, n'a pas saisi non plus. C'est intéressant de mettre les deux, parce que c'est ce surêtre. Alors évidemment, Platon n'a jamais dit que le bien est un surêtre. Je le dis en fonction du père de finance. C'est intéressant de le dire en fonction du père de finance, de bien montrer que le bien, c'est vrai, il est au-delà de l'être. Donc il est un surêtre. Il est au-delà de l'être. Je ne peux pas expliquer le bien par l'illusion. Alors, on comprend la grande position d'Aristote en face de ça. Dois-je maintenir le bien comme au-delà de l'être? Dois-je au contraire dire, pas du tout, le bien c'est l'être dans une de ses manières d'être. Vous comprenez que si je prends ce thème-là, très intéressant avec ça. Je dirais que la philosophie, elle est au niveau de l'intelligibilité. La philosophie première. Alors, Platon ne parle pas encore de métaphysique, il ne parle pas de philosophie première, il parle de la dialectique. La dialectique est au niveau de l'ousia, est au niveau de l'intelligibilité. Et la théoria La contemplation, c'est le bonheur. Alors, j'ai une coupure entre les deux, c'est très vrai. Il y a le dépassement de la dialectique dans la contemplation. Mais la dialectique explique tout le raisonnement de l'intelligence. L'intelligence, elle est du côté de la dialectique. La réminiscence, la forme idéale, du côté de la dialectique. Alors, est-ce qu'Aristote va garder cela? Et au fond, c'est le gros problème d'Aristote. On peut dire, c'est le gros problème d'Aristote. Face à Platon, doit-on maintenir que le bien est au-dessus de l'être? Face à Platon, doit-on maintenir que l'un est au-dessus de l'être? Ou est-ce qu'on doit considérer que, de fait, l'être, dans ce qu'il a de plus lui-même, ce qui est vu du point de vue de l'être, l'être dans ce qu'il a de plus lui-même, c'est le bien? Doit-on considérer que le bien est au-delà de l'être ou doit-on considérer que le bien est une des modalités de l'être? Et au fond, tout le problème est là. Et c'est ça l'intérêt. Ça, c'est un problème très important. Et là, on voit bien la différence entre l'aristotélisme et le platonisme. Pour le platonisme, le bien est au-delà. Et je dis bien pour le platonisme parce que ce sera ce qui va se retrouver dans tout le néoplatonisme, donc dans Plotin. Vous allez retrouver dans Platon le bien qui est l'un au-delà de l'être. Et c'est pour ça même que Platon, étant plus critique que Platon, dira que le bien est l'un, on n'atteint plus par la contemplation. C'est l'énoscence. C'est l'union. C'est l'unité. Et c'est au-delà de la contemplation. Il y a un au-delà de la contemplation qui est l'énosis, qui est l'unité mystique avec Dieu, qui n'est plus la contemplation. C'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose un petit peu faux, vous voyez, de couper la contemplation de l'intelligibilité. La contemplation coupée de l'intelligibilité va tomber dans l'énosis. Alors l'énosis, c'est l'unité, et ce sera le silence. C'est très très beau, mais alors vous voyez tout l'un derrière, hein, le nirvana, qu'est-ce que c'est exactement? Ça peut être négatif, ça peut être positif. Au fond, c'est ça. Chez Platon, on retrouve ça. On trouve le silence. Sigue. Le silence. Le silence qui est au-delà de la contemplation. Qui est comme la perte de nous-mêmes dans l'un. La perte de nous-mêmes dans l'un. Puisque, au fond, l'un demande de nous absorber complètement. Le bien complet. Demande de nous absorber complètement. Alors il y a ce dépassement de la contemplation dans l'énosis. C'est très intéressant parce que ça fait comprendre comment Platon, quand il dit que la contemplation regarde le bien, au-delà de l'intelligibilité, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça se voit toujours. Hein, l'erreur dans les principes se traduit dans les conclusions, c'est-à-dire dans l'école, les sequatures, ceux qui viennent après. Et alors les néoplatoniciens ne vont pas garder la théoria, ils diront l'énosis. Et la théoria disparaîtra, si vous voulez, ne sera plus qu'à de sommet. De là, on comprend comment l'action peut venir au-delà de la contemplation. C'est très curieux de voir ça. Il y a une espèce de lien comme ça entre les deux, vous voyez. Alors vous avez, je crois, le point de vue Platon, le point de vue néoplatonicien Plotin, et puis, vous avez ensuite l'action qui est conçue comme un surêtre, et donc comme quelque chose qui, de fait, dépasse le point de vue de l'intelligibilité. Face à cela, face à cette position, quelle sera la position d'Aristote? C'est ce que nous allons essayer maintenant de voir, rapidement, hein, puisque nous allons reprendre après la philosophie de la métaphysique de l'être. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir face à ça, Aristote, face à Platon. Aristote va essayer de nous montrer que le bien n'est pas au-dessus de l'être. Autrement dit, que entre éthique et métaphysique, il y a une correspondance constante. L'éthique qui regarde le bien présuppose la métaphysique, et la métaphysique se termine dans l'éthique. Je vous ai dit, chaque fois que nous faisons un progrès nouveau dans la métaphysique, nous faisons un progrès en éthique, et chaque fois que nous faisons un progrès dans l'éthique, nous faisons un progrès dans la métaphysique. C'est pour ça que éthique et métaphysique doivent toujours se voir de pair, tout le temps, perpétuellement. Il faut comprendre qu'il y a là, et c'est très vrai, quand vous regardez l'éthique d'Aristote, vous voyez que l'éthique d'Aristote enveloppe la métaphysique, et que la métaphysique est au-delà de l'éthique. Alors il y a une double relation entre les deux. Je ne peux pas mettre, vous voyez, je ne peux pas mettre d'un côté ce que la scolastique a fait. La scolastique décadente, elle a dit d'un côté la métaphysique, on l'a exaltée, et puis de l'autre côté l'éthique, qui est simplement l'application. Alors l'éthique est considérée comme l'application, c'est pas ça du tout. L'éthique enveloppe la métaphysique, puisque l'éthique se termine par la contemplation. Si l'éthique se termine par la contemplation, ça prouve que justement l'éthique enveloppe la métaphysique. Et ça, c'est le problème d'Aristote, hein. Ne projetons pas sur Aristote ce que la scolastique dit. Et comprenons que pour Aristote, l'éthique enveloppe la métaphysique, ce qui est très important, parce que ça montre bien que le point de vue, le problème métaphysique, porte toute la vision de l'homme, et que la vision de l'homme découvre son bonheur dans la théoria. On peut dire qu'Aristote, sous ce point de vue-là, vous voyez, est le défenseur de la contemplation. C'est lui qui va maintenir la contemplation. Je crois que si on n'est pas aristotélicien, on ne peut pas maintenir le primat de la contemplation. Ça me semble extrêmement net dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la pensée occidentale. Si on ne maintient pas, si on n'a pas cette vision-là, on maintiendra momentanément un primat de la théorie à la manière de Platon, mais très vite, non. Et ce qui est très vrai, c'est que nous savons très bien que la théorie de Platon, elle ne finalise pas tellement. Puisque, ayant contemplé, on doit revenir dans la caverne. Donc, il y a l'aspect politique. Contempler une demi-heure par jour, et puis faites de la politique en même temps. Hein. Très, très bien. Mais vous êtes obligé de retourner dans la caverne. Et retourner dans la caverne, c'est le point de vue politique. Et donc, la théoria n'a pas en elle-même sa finalité planière. Vous voyez ? Ce qui montre bien que si on quitte ce point de vue de l'intelligibilité, la théoria ne peut plus avoir son absolu. Alors, le gros problème chez Aristote va être de nous faire comprendre comment l'être, cette nouvelle conception de l'être. Et c'est pour ça qu'il dit, l'être, n'oublions jamais, le taux homme, ce que saint Thomas traduit, ce qui est. Je crois que saint Thomas a raison de traduire le toon, ce qui est, c'est la meilleure des traductions. Très difficile de traduire le toon. Parce que ne traduisez pas l'étant. Parce qu'alors ça, c'est une petite saveur heideggerienne dans notre monde d'aujourd'hui qui ne va plus du tout. Alors traduisez le toon d'Aristote, ce qui est. Alors Aristote va nous montrer que le toon, l'égétal, pour la cause. Quand Aristote dit végétal pour la cause, il nous dit que l'être se dit de diverses manières. Tout le problème des catégories. Et puis deuxièmement, il nous montre que l'être se diversifie d'une manière complète. Vous voyez, les deux aspects, ils sont très importants parce que je crois que c'est là où Aristote fait sauter la conception de l'être, de ce qu'on représente le carcan platonicien. L'être est cantonné par Platon dans le point de vue de l'ousia et dans le point de vue de l'intelligibilité. Aristote nous montre que l'être est au-delà de l'intelligibilité. Et c'est pour ça qu'il nous montre, nous dit, l'être, ce qui est, est dit de multiples manières pour la cause. Les détails pour la cause. Ça, c'est une expression sacrée qu'il faut comprendre. Hein. Donc, l'être se dit de multiples manières. Et l'être se dit de multiples manières, c'est tout problème des catégories. Donc, nous l'avons vu, ce problème-là. C'est la première manière dont Aristote saisit l'ousia. Et puis, Aristote va plus loin. Je ne peux pas uniquement rester dans le problème des catégories. Je ne peux pas rester uniquement devant le problème de l'être est dit de multiples manières. Parce que je dois regarder l'être en lui-même. Et non pas uniquement selon le legetal, hein, ce qui est dit. Je dois regarder l'être en lui-même. Et quand je regarde l'être en lui-même, je vois que l'être, ce qui est, se dit de manière différente. J'interroge. Qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, le tiesti, c'est pas le négatif. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et j'essaie de comprendre que l'être va avoir deux grandes modalités. Il va être dit comme l'être en acte et l'être en puissance. Alors, ça, c'est la grande découverte d'Aristote. Déjà, découvrir l'ousia, c'est déjà une très grande découverte par rapport à Platon. La meilleure découverte d'Aristote, c'est donc dans le livre Theta de la métaphysique. Dans le livre Theta de la métaphysique, Aristote va essayer de nous faire comprendre que l'être se dit l'être en acte énergéia. L'être en acte et l'être en puissance. Nous avons donc là une nouvelle division de ce qui est. Une nouvelle division de ce qui est. L'être implique en lui-même d'être en acte et d'être en puissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est par là, vous voyez, qu'il va répondre à Platon, qu'il va dépasser Platon, pour nous faire comprendre comment le bien se dit en référence à l'être en acte. Le bien, c'est l'être en acte. C'est pas au-delà de l'être, c'est l'être en acte. Alors, comment Aristote va-t-il attaquer le problème face à Platon? Il va attaquer le problème face à Platon. C'est tout à fait différent. Il faut comparer ceux qui s'intéressent à Aristote. Il faut bien comparer le livre Zeta, qui est le livre de l'ousia, donc qui est le livre de la substance. Et puis, dans le livre Theta, cette division de l'être en acte et d'être en puissance. Comment Aristote va-t-il aborder le problème? Il va aborder le problème par la dynamis. Ça, c'est aussi très intéressant à voir. La dynamis, c'est-à-dire la puissance. Distinguons bien l'être en puissance et la puissance. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'être en puissance, c'est le possible. La puissance, c'est une capacité. Je suis capable de réaliser ceci. Vous êtes capable de porter un poids. Capable de porter en poids. C'est évident, vous ne le portez pas encore actuellement, mais vous êtes capable de le porter. Vous êtes capable de faire attention pendant une demi-heure. Je vous dis une demi-heure. Il faut que le champ reprenne pour donner un nouvel élan, parce qu'autrement, ça ne va plus. Alors on sent très très vite, parce que ça s'endort, ça dégringole, c'est la fatigue. Il y a un renouveau. L'être en acte, la dynamis. La dynamis du champ. C'est ça la capacité. Empêcher la dégringolade. Autrement, on terminerait, c'est bon. Alors, c'est la dynamis. La dynamis, c'est la capacité de reprendre, de réactuer. C'est ça la dynamis. La capacité de réactuer. Tandis que l'être en puissance, c'est pas la capacité de réactuer, c'est un état. Pas la même chose, un état possible. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Aristote commence ce livre Theta par la dynamis. Pourquoi? Parce que pour Platon, l'être n'est parfaitement lui-même que dans la dynamis. Alors, il faut regarder ici. Autrement dit, chez Platon, il y a deux aspects dans l'être. L'intelligibilité, l'être égale l'intelligibilité. L'être, dans ce qu'il a de plus humain, est capable de. C'est la dynamis. Capacité. La dynamis, ce n'est pas le bien. C'est pas le bien. Mais c'est au-delà de l'intelligibilité. C'est quelque chose qui va plus loin que l'intelligibilité, puisque c'est la capacité d'action. C'est l'être, je dirais, dans son pouvoir de réaliser quelque chose. Ça, c'est la dynamis. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de regarder dans Plotin. La dynamis chez Plotin est utilisée pour voir le lien qui existe entre le bien et l'homme. Il reprendra ce terme de dynamis pour bien nous faire comprendre que la dynamis chez Platon est au-delà de l'ousia. C'est intéressant à voir comment Aristote commence par ce point de vue de la dynamis, qui, pour Platon, est un absolu. L'être parfait, c'est la dynamis. C'est la capacité de réaliser quelque chose. C'est l'être parfait. Vous voyez les deux, la double conception qu'il y a dans l'être chez Platon. Hein. L'être s'identifie à l'intelligibilité, donc l'être s'identifie aux formes idéales, et l'être est dynamis. L'être est capacité, pouvoir, pouvoir de réalisation. Et si je regarde Plotin, parce que Plotin me fait comprendre Platon, il ne faut pas l'oublier, puisque Plotin va expliciter Platon, va expliciter le divin Platon, c'est le théologien de Platon, Plotin. Alors comme c'est le théologien de Platon, on voit que chez Plotin, la dynamis est prise pour faire comprendre comment il y a entre le bien et l'unité. Et on explique ça par la dynamis. Saisir ça, c'est intéressant. Alors, que va faire Aristote? Il va relativiser la dynamis. Il va montrer que la dynamis, ce n'est pas l'être. Je ne peux pas identifier l'être et la dynamis. Je ne peux pas identifier l'être et la puissance. Je vais relativiser la dynamis en montrant que, de fait, nos capacités sont multiples. Elles sont multiples, nos capacités. Nous avons des capacités à agir, nous avons des capacités naturelles, nous avons des dispositions, nous sommes au niveau de la vie, nous avons des capacités de voir et d'entendre, nous avons des capacités d'agir. La dynamis est multiple. Si elle est multiple, elle est relative. Donc, elle n'est pas du tout une. C'est le premier effort d'Aristote. Quand on aborde le livre Tétan, on se dit toujours, mais pourquoi aborde-t-il ça? Ça paraît un peu lointain. Il montre que la dynamis est première dans l'ordre du devenir, mais pas première dans l'ordre de l'être. C'est vrai que dans l'ordre du devenir, la dynamis est première, parce que c'est la capacité à agir. C'est la capacité de mouvoir quelqu'un. Alors la dynamis est première dans l'ordre du devenir, mais pas dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre de l'être, j'ai au contraire une multiplicité de conceptions de la dynamis. Donc, il va relativiser la dynamis. Et en même temps qu'il relativise la dynamis, il va montrer qu'elle existe face aux mégarites. Alors là, il y a tout un problème qu'on ne va pas regarder. Les mégarites sont des philosophes qui sont les premiers existentialistes. Parce que pour les mégarites, n'existe que ce qui est actuellement. Il n'y a pas de puissance. Alors, vous voyez, Aristote maintient la puissance et la relativise. Voilà ce qu'il va nous faire dans les premiers chapitres de ce livre Tétan. Puis ensuite, il va aborder le problème. Une fois qu'il a dit que la dynamis implique, la puissance implique un pouvoir, une possibilité, est inclus dans la puissance une possibilité. Si dans la puissance est impliquée une possibilité, on va tout de suite poser le problème d'une nouvelle manière en essayant de comprendre que dans toute réalité, surtout dans l'homme, puisque au niveau métaphysique c'est toujours l'homme, dans l'homme je peux distinguer divers états. Alors, il va prendre des états tout à fait différents dans l'homme. L'état d'être éveillé et de dormir. Ça, on en fait tous l'expérience plusieurs fois par journée. L'état de dormir et d'être éveillé. Surtout au cœur. L'état de dormir et d'être éveillé. Alors, vous êtes dans un état particulier, puisque vous êtes capable de dormir et vous dormez. Puis vous êtes capable d'être éveillé et vous êtes éveillé. Vous voyez le possible, qui fait deux états. Première constatation, c'est la même personne qui dort et qui est éveillée. C'est extraordinaire. C'est la même personne. Du côté de Lousia, rien n'est changé. C'est substantiellement la même personne qui dort et qui est éveillée. Vous voyez donc que je ne peux pas ramener l'être uniquement à Lousia. Parce qu'au point de vue de l'être, c'est quand même pas la même chose, être éveillé ou dormir. Au plan métaphysique, c'est quand même pas la même chose. De finance à bien saisir. L'action est surêtre. Mais non, l'action n'est pas surêtre. C'est d'être éveillé. Et être éveillé, est-ce que c'est un surêtre? Est-ce que vous êtes parfaitement vous-même quand vous dormez? Ou est-ce que vous êtes parfaitement vous-même quand vous êtes éveillé? Ou est-ce que vous êtes être quand vous êtes éveillé ou lorsque vous dormez? Aristote voit deux états de l'être. Donc, je suis quand je dors. Je suis quand je suis éveillé. Quand Descartes dit « cogito ergo sum », je pense. Je pense, donc je suis. Il montre bien que l'être est du côté de celui qui pense. Donc, il est éveillé. Je pense donc je suis éveillé. On pourrait dire ça comme métaxu. Je pense donc je suis éveillé. Et si je suis éveillé, je suis. Et je suis parfaitement. C'est vrai ça. Deux états de la même personne. De la même personne. Ça n'a l'air de rien ça, mais c'est une petite trouvaille merveilleuse. Petite trouvaille merveilleuse de voir que lorsque vous vous endormez le soir et que vous vous réveillez le matin, c'est la même personne. Et quand vous commencez à vous demander si c'est pas la même personne, ça devient dangereux. Est-ce que c'est bien moi qui me suis endormi hier au soir? Je me réveille maintenant. C'est extraordinaire ça, la même personne. Donc la même Lousia, deux états différents. Deux états différents. Et il y a un ordre dans ces deux états. Normalement, on dort pour être éveillé. Pas toujours. Quelquefois, vous vous réveillez pour vous rendormir. Hein. Vous voyez, vous n'êtes pas assez éveillé. Alors, vous vous rendormez. À ce moment-là, vous êtes éveillé pour dormir. Hein. Ça se caractérise, un état de paresse. Hein. C'est ça. Alors, à ce moment-là, vous vous réveillez pour dormir. Aristote signale que je puis être capable de voir et de voir. J'ai la capacité de voir et je vois. Là encore, je retrouve au niveau de ma vie deux états différents. J'ai une capacité, une dunamis. J'ai une capacité de voir et je vois. Alors plus loin, j'ai une capacité de contempler et je contemple. J'ai une capacité de contempler et je contemple. Là encore, deux états. Il va multiplier ses exemples. Il en prend cinq. Et il montre qu'il y a quelque chose d'analogue entre l'état de la matière, analogue à la forme. Et l'état, celui qui est imparfait, vers celui qui est parfait. Aristote donc va rassembler plusieurs expériences d'un type analogue. D'un type analogue, c'est-à-dire des exemples où je trouve la même réalité substantielle dans deux états différents. J'allais trouver ça. Ça n'a l'air de rien, une fois qu'on le dit, on se dit, mais c'est bête comme chou. C'est sûr, la philosophie c'est toujours comme ça, c'est très bête. Mais à la place de rester dans la bêtise, on l'actue. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, on en sort. Vous voyez ? On en sort. Parce qu'on est dans un état d'imperfection, puis on devient un état de perfection. Alors à ce moment-là, vous sortez de cet état d'hébétude. Vous sortez de cet état de... On risque de rester dans cet état d'imperfection. Alors, on actue ça. Aristote dit, et là il est très conscient de ce qu'il fait, que pour découvrir l'être en acte, il faut une induction analogique synthétique. C'est l'expression qu'il donne. C'est le seul lieu dans toute sa philosophie où il dit ça. il faut une induction analogique synthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la découverte de l'être en acte est quelque chose de particulièrement subtil, et parce que c'est quelque chose de particulièrement subtil, puisque c'est découvrir la fin, télos, c'est découvrir la fin, ce au-delà de quoi je ne puis pas aller. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'être éveillé. Vous n'avez jamais pensé à ça. Vous pouvez retomber plus bas, alors vous dormez. Mais être éveillé, vous ne pouvez pas aller au-delà. Ah, je suis parfaitement éveillé. Alors on vous pique pour voir si vous êtes bien éveillé. Hein? Je suis parfaitement éveillé. Je vois. Vous pouvez aller au-dessus? Non, on ne peut pas. Vous pouvez retomber en bas. Je suis parfaitement éveillé. Alors vous voyez, c'est que la fin, télos, ce qui est le terme de l'être, c'est particulièrement difficile à saisir, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Alors, pour le saisir, il faut une induction analogique synthétique. Nous y reviendrons. Hein. Ici, je montre simplement ce qu'Aristote nous dit dans ce livre Theta. Très, très important. Ce livre Theta, pour Heidegger, représente le sommet de toute la philosophie grecque. On n'a jamais été au-delà. Donc on n'a jamais été aussi éveillé. Ça veut dire ça. Comme philosophe. Aristote, dans le livre Theta, est parfaitement éveillé comme philosophe. Et il nous dit que pour atteindre l'être en acte, il faut cette induction analogique synthétique. C'est pour ça qu'il prend des exemples différents. Il prend ces cinq exemples différents. Ces cinq exemples différents sont des exemples qui touche le point de vue du vivant, qui touche l'opération vitale, qui touche le point de vue physique, qui touche le point de vue éthique. Donc il prend des exemples différents pour nous montrer que ces exemples différents impliquent une unité. Cette unité ne peut exister qu'au niveau de l'être. Et c'est en ce sens-là qu'on aura une induction analogique, synthétique. On aura donc une analogie, on aura donc une induction analogique, synthétique. Mais pour qu'il y ait induction, il faut interrogation. Quelle est l'interrogation d'Aristote? Qu'est-ce que c'est que l'être en acte? Qu'est-ce que c'est que l'être parfait? Qu'est-ce que c'est que l'être au-delà de quoi je ne puis pas aller? Non pas le surêtre. Pour Aristote, ça n'a pas de sens, le surêtre. Mais c'est l'être tel qu'il est pleinement et totalement. Alors, voilà l'interrogation, voilà les exemples, et Aristote aboutit à dire l'être en acte, c'est l'être qui est fin. Alors, il y a une petite difficulté, parce que ça ne va pas si simplement que ça, mais c'est dit avec beaucoup de netteté. Mais comme Aristote nous croit qu'on est très intelligent, il suffit tout simplement qu'il nous dise cela. Alors, Aristote nous dit, et c'est l'expression qu'il prend, il prend deux termes pour exprimer l'être en acte. Energeia et entelecheia. Entéléchie, comme on a traduit. Hein. Tricot traduit entéléchie. Alors, c'est le mot entéléchie n'est pas tout à fait français. Cherchez dans le dictionnaire Larousse, entéléchie. Ne faites pas un poème en employant entéléchie. C'est un peu lourd. Hein. Et pourtant, c'est très léger puisque c'est l'être en acte. Et c'est pourtant très lourd en téléchie. Tandis qu'en grec, c'est pas lourd du tout. Alors ça, c'est le second mot qu'Aristote a inventé. Il a inventé le to, ti, en, einai. Que la scolastique a traduit, du moins que le latin a traduit, quod, puis, erat esse. On calque le latin par rapport au grec. On peut faire ça, c'est un procédé de traduction, de calquer. On transpose le grec en latin. Quod quid erat esse. Comme c'est un tout petit peu trop long, on a dit quiditas. Vous voyez, faites ça tout simplement. Quiditas. Un Forcément, quand vous êtes en face de puits, vitas, vous ne pensez pas à quoi de puits, ratesse. C'est le petit mot, vous voyez, qu'on traduit vraiment ça. Puis on a traduit en français cuidité. C'est pour ça que cuidité ne vous dit rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, la signification de cuidité? Et ça a été répété. Inventer un mot absurde, il n'y a rien de tel pour le répéter. Et c'est comme ça, c'est le répéter. C'est, vous avez répété cuidité. Et qu'est-ce que ça veut dire, cuidité? Toti eneinal. Il faut revenir à toti eneinal pour comprendre cuidité. Autrement, vous n'y comprenez rien du tout. Alors, Aristote a inventé ce mot dans la recherche de l'ousia pour montrer la distance qui existait entre l'être et l'intelligibilité de l'être. Alors, il a thématisé, comme on dirait aujourd'hui, il a thématisé l'intelligibilité de l'être en inventant le toti eneinal. C'est une thématisation de l'intelligibilité. Quand il s'agit de la recherche de l'être en acte, nous trouvons encore un mot inventé par Aristote. C'est très très connu. Les deux grandes inductions, il a inventé deux mots. C'est un fait. Les deux seuls mots qu'il a inventés. Il a inventé entelekeia. Alors là, les latins ont été beaucoup moins heureux. Parce que les latins ont traduit entelekeia et energeia par actus. Vous voyez, comme le latin est pauvre. Comme le latin est pauvre. Parce qu'on a traduit entelekeia et energeia par le même mot. Alors là, Heidegger est fou. Heidegger est complètement fou. C'est de la folie de traduire ces deux mots grecs par le même mot latin, actus, qui n'exprime absolument pas le génie de energeia et entelekeia. Je vous lirai ce qu'Heidegger dit, ça vaut la peine. Parce que c'est intéressant de voir ça, c'est intéressant. Parce qu'Heidegger est quand même proche de nous. Alors c'est intéressant de voir combien la folie furieuse de Heidegger par rapport à cette traduction actus, entelekeia, energeia. Et c'est vrai, saint Thomas lui-même accepte cette traduction. Il aurait pu quand même interroger les traducteurs en disant, écoutez, vous traduisez par le même mot deux expressions grecques différentes. Non. Saint Thomas n'a pas été sensibilisé à ça. C'est très curieux, du reste. C'est très curieux, parce qu'il y a quand même quelque chose de différent. Alors, ce mot qu'Aristote a inventé, ce mot, on le trouve presque chez Platon. Vous voyez que ce mot, si j'essaie de le décomposer, en telos, Ekeia. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ayance dans la fin. L'ayance dans la fin. Quand vous êtes finalisé, quand vous êtes lié à votre fin, vous êtes dans un état particulier. Bien distinguer le ronron du chant en face du feu, les entelekeia. Mais c'est une fausse entelekeia. Et puis le vol de l'aigle qui contemple. Alors ça, entelekeia. Qu'est-ce que c'est qu'entelekeia? C'est d'être dans sa finalité. Quand on est dans sa finalité, on est entelekeia. On est l'ayance dans la fin. L'ayance dans la fin exprime donc une opération qui nous unit à la fin. Et entelekeia exprime l'opération qui nous unit à la fin. Tandis que energeia vient justement de ergon, l'œuvre. Vous voyez, c'est lié à l'œuvre, energeia. Et ça exprime l'artiste qui a terminé son œuvre. C'est l'œuvre parfaitement achevée, accomplie. C'est un état d'accomplissement, energeia. Et c'est vrai que la finalité, il ne faut pas l'oublier, la finalité, nous la saisissons en premier lieu à partir de l'œuvre. C'est quand un artiste a terminé son œuvre qu'il s'assied. Dieu se reposa le septième jour, quand il a terminé son chef-d'œuvre, l'homme et la femme. Quand il a terminé son chef-d'œuvre, il se repose. Vous voyez, energeia. C'est l'œuvre qui montre l'achèvement, qui montre le terme. Alors vous voyez cette chose très curieuse. qu'Aristote va inventer deux mots pour essayer d'exprimer ce que c'est que l'être en acte. Il va exprimer l'être en acte par entelekeia et energeia. Donc, il fait appel au facere et à l'agir. Il fait appel à l'action morale, entelekeia. Il fait appel à l'action artistique, energeia. Alors ça me semble très important. Parce que ça fait comprendre que je ne peux pas saisir ce que c'est que l'être en acte sans avoir cette double expérience, une induction analogique, synthétique. Je commence à comprendre. Il faut saisir ces deux grandes expériences où je saisis ce que c'est que la finalité. Vous saisissez la finalité par le facere, quand vous réalisez une œuvre. J'ai terminé mon travail. Vous savez, la victoire du gosse quand il a fait la première fois un petit travail, c'est terminé. Quand il a fait du mécano et qu'il a fait une espèce de chose, viens voir. Alors on va regarder. C'est extraordinaire. Il a réalisé une œuvre. Première œuvre qu'il a faite. Quand il a fait un gribouillis, quelque chose. Regarde, c'est une œuvre. Hein. Oui, vous dites que vous êtes en admiration. En energeia. C'est une œuvre. Alors, vous avez l'expérience du facere qui se termine dans l'énergie, dans l'ergon, dans l'œuvre. Et puis vous avez une autre expérience de la finalité, dans l'entelekeia, quand vous êtes uni à ce qui pour vous est votre bien. Quand on aime, qu'on est uni à celui qu'on aime, dans l'amour d'amitié. Entelekeia. C'est très curieux. C'est les deux grandes modalités que j'ai de la finalité. Mais j'ai ces deux expériences qui sont totalement différentes. C'est pour ça qu'il faut inventer deux mots. D'un côté, je possède ma fin dans l'immanence, et de l'autre côté, je la possède dans l'altérité.